Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, la répression au Bénin, nouvelle violence post-électorale, invité de cette édition. Jean-Claude Félix Tchikaya, chercheur au groupe Afrique de l'Institut de Prospective et Sécurité en Europe. En France, l'enveloppe de 70 millions d'euros débloquée par le gouvernement laisse perplexes les personnels de santé. Mediapart révèle que l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, a émargé à Pôle emploi tout en faisant valoir un CDI. Enfin, la pénurie en eau potable dans tout le nord de l'Inde, rationnement dans les quartiers pauvres. Reportage à New Delhi. La diplomatie britannique ne dit rien d'autre que ce que Donald Trump annonce depuis hier. Les deux attaques contre des pétroliers hier en mer d'Oman sont signées de l'Iran. L'Iran a fait ceci, a affirmé sans sourciller le président américain sur l'antenne de Fox News. L'Iran dément, ironise et accuse Washington de maquillage et de sabotage diplomatique. Qui l'emportera à ce jeu-là? Qui pour faire triompher sa propagande? Élément de réponse avec Clément Terme, spécialiste du Moyen-Orient et de l'Iran, à l'Institut international d'études stratégiques de Londres.
Le problème avec les déclarations américaines, c'est qu'elles s'inscrivent dans une logique politique et que l'État américain a développé une analyse sur l'Iran qui est très idéologique. La République islamique d'Iran se présente comme une victime de manipulation de l'information américaine, en s'appuyant notamment sur l'exemple de la guerre d'Irak de 2003 avec les fameuses preuves de Colin Powell présentées au Conseil de sécurité. Donc on peut vraiment se demander si l'Iran n'est pas en train de gagner cette guerre de l'information en raison des précédents américains. Donc même si l'Iran ou certaines factions en Iran pourraient être tentées de réagir à l'embargo pétrolier américain, à l'escalade américaine face à la République islamique d'Iran, la crédibilité des États-Unis est très amoindrie par le passé de la guerre d'Irak.
Clément Terme au micro de Franck Madvon. Le ministre turc des Affaires étrangères avance que la Russie n'a pas d'excuse pour ne pas faire pression sur le régime syrien afin de faire cesser ses frappes dans le nord-ouest de la Syrie. La région d'Idleb, qui abrite environ 3 millions d'habitants dans le nord-ouest, est en guerre. Elle est soumise depuis fin avril quasi quotidiennement aux raids meurtriers du pouvoir de Bachar el-Assad et de son allié russe. Au terme d'un sommet des pays du sud de l'Union européenne à Malte, le chef de l'État français s'improvise porte-parole de Bruxelles virulent à l'égard de ce qu'il qualifie d'activité illégale turque dans la zone économique chypriote. Emmanuel Macron, qui a également pris acte tout en le regrettant, des maigres avancées des ministres des Finances en matière de réforme de la zone euro sans conclure sur d'importants aspects d'un futur budget commun, le projet du président de la République française. Le storytelling monophasé de Boris Johnson lors de la campagne pour la succession de Theresa May au poste de Premier ministre, l'ancien ministre britannique des Affaires étrangères refusera, je cite, d'agiter le drapeau blanc devant Bruxelles et d'envisager un nouveau report du Brexit si aucun accord n'était prêt avant fin octobre. De nouveau, l'armée ouvre le feu sur les détracteurs du pouvoir au Bénin. Les premiers de mai dernier, c'était à Cotonou, des centaines de partisans de l'ancien président Boni Yayi, en poste entre 2006 et 2016, étaient descendus dans la rue de la capitale économique du pays. Même scène depuis 4 jours dans sa ville natale, Tchawaou. L'armée et la police ont été chargés de libérer les axes routiers et de déloger des barricades érigées dans les rues de Tchaourou et de Savé, les détracteurs. Bonsoir Jean-Claude Félix Tchikaya.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur pour l'Institut de Prospective et Sécurité en Europe. Des témoins parlent de psychose au Bénin. Que s'est-il passé ces derniers jours dans le centre du pays? Le pouvoir se sent à ce point menacé qu'il donne l'ordre de nouveau à l'armée de tirer à balles réelles.
Psychose, on pourrait même dire même névrose sociale et politique. Le président Patrice Talon ressort très affaibli des législatives, donc il y a une crise post-électorale, près de 80% d'abstention aux dernières législatives, trois partis donc qui sont dévoués et donc au président Patrice Talon, donc c'est une chambre d'enregistrement, donc pas perçu du tout comme légitime et représentant les aspirations du peuple béninois, qui depuis 1991 était donc rentré dans des décennies de démocratisation. C'est vrai que je voudrais pas pousser, comme certains, un côté idyllique d'un Bénin qui roulerait donc, qui roulait depuis 3 décennies sur des rails démocratiques, économiques, je voudrais juste qu'on puisse rentrer dans l'écosystème béninois. C'est vrai qu'on était sorti des violences au temps de Kirikou avant les années 91. Et là, depuis deux ans, Monsieur Patrice Talon tourne à un régime autoritaire, ultralibéral et directif.
Avec en toile de fond, pardonnez-moi, une crise sociale.
Avec une crise sociale, hein, juste avant que vous puissiez prendre la parole, je disais que c'est plus qu'ultralibéral, c'est donc des décisions qui sont presque quasi liberticides. Ils touchent à des acquis sociaux qui étaient justement, qui émanaient de ces trois décennies qui étaient favorables à la question sociale béninoise, et là qui appauvrit sur le plan économique et social les Béninois. Et maintenant, et c'est un millefeuille de mesures qui vont à l'encontre de ce qu'il avait d'ailleurs énoncé dans son programme en 2016, qui, on voit bien que, bon, c'est un ancien homme d'affaires, ou même un homme d'affaires et président actuel, qui était un peu faiseur de roi au niveau des campagnes électorales. Il finançait ici et là des campagnes électorales, et notamment de son prédécesseur. Donc il a une vision économique un peu brutale, et notamment ultralibérale. Et là, maintenant, elle se conjugue à une vision autoritaire du pouvoir au Bénin.
Justement, que dire, Jean-Claude Félix Tshikaya, de ces soupçons qui pèsent sur l'actuel président Patrice Talon, accusé par l'opposition de privatiser l'économie du pays ?
Oui, parce que...
Vous dites oui.
Oui, je vous dis oui, parce qu'il a pris des décisions notoires où il a privatisé des sociétés étatiques, qui était justement pour mettre en place une politique qui réduise la question sociale, qui réduise plutôt les questions de pauvreté, qui permettent à chaque Béninois de vivre au mieux, au gré de ces décennies de démocratisation, même si je reviens sur un écosystème qui est moins politique et moins idyllique que celui qu'on veut parfois trop présenter sur un Bénin qui était donc
c'était le bon élève, c'était le très bon élève, n'est-ce pas?
C'était le très bon élève, mais qu'on regarde un petit peu à l'intérieur de cet écosystème. D'ailleurs, même si notamment de nombreux jeunes manifestent à Tchaourou, à Savé et autres pour que finisse l'encerclement du domicile de l'ancien président Boniayi, ce slogan, le mur humain contre le blocage policier, malheureusement il était confronté à une unité interarmée, armée de l'air, armée de terre et maritime, Amnesty International.
Quelle est la dernière voix qui parle de là-bas.
Oui, c'est la dernière voie. Et ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a une inquiétude sur... ça fait trois générations. La majorité des Béninois ont moins de 30 ans. Donc, ils ne sont pas habitués à vivre ces violences qui sont énoncées dans leur livre d'histoire, énoncées par leurs parents et grands-parents. Donc, les jeunes qui sont, entre guillemets, derrière les barricades, demandent un retour du chemin démocratique qu'a entrepris le Bénin. Et c'est pas seulement des revendications politiques et démocratiques sur le plan de la législation, mais c'est aussi de la question sociale. Il y a un appauvrissement et des décisions, on peut dire, ultralibérales, voire liberticides, voire la privatisation de sociétés étatiques qui, malheureusement, entament le portefeuille de chaque Béninois, et notamment la classe moyenne ou celle qui était déjà très précarisée.
Merci à vous, Jean-Claude Félix Tshikaya, d'avoir accepté notre invitation. Le leader de l'opposition soudanaise réclame une enquête internationale sur la répression d'un rassemblement le 3 juin dernier de manifestants hostiles au conseil militaire. Hier, ces mêmes hiérarques gradés ont reconnu avoir ordonné, je cite, la dispersion de ce rassemblement auquel ont participé des milliers de manifestants devant le QG de l'armée à Khartoum, 120 morts selon un comité de médecins proche de la contestation. Il est 22h10. Une enveloppe pour l'hôpital avec une somme à débloquer avant l'été. Ce sont là les engagements pris dans un cadre très institutionnel par le gouvernement après 3 mois de grève et de grogne. Les personnels de santé en grande souffrance ont fraîchement accueilli ce geste du gouvernement qui, t'arrache la gueule, n'aura pas rassuré les effectifs comme l'ont souligné leurs représentants.
Disons que ce n'est pas encore gagné. La ministre a d'abord annoncé une prime de risque, 100 euros net par mois pour les 30 000 agents des urgences, pas les médecins donc, mais les paramédicaux. Et ce n'est pas tout, Agnès Buzyn.
J'ai également annoncé une prime de coopération pour tous les services qui vont s'engager dans des coopérations entre les professionnels, délégation de tâches, comme par exemple permettre à des infirmiers de prescrire des examens de radiologie. Et puis j'ai dégagé une enveloppe budgétaire pour cet été, de façon à ce que les établissements qui vont sentir des tensions puissent recruter du personnel. C'est une enveloppe de 15 millions d'euros pour cet été.
Le tout donc environ pour 70 millions. En face, les syndicats sont plutôt sceptiques à propos de cette prime de coopération liée à une tâche supplémentaire. Voici la réponse de Sud Santé Sociaux, Olivier Winou.
C'est un retour du travailler plus pour gagner plus. Ce que demandent les agents aujourd'hui, c'est d'être payés à hauteur de ce qu'ils font déjà et pas de devoir faire plus pour être payés. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on aurait voulu discuter avec la ministre et des gens mandatés pour négocier avec nous. Ce n'était pas le cas. On était plutôt dans un truc académique, institutionnel, où les uns et les autres parlaient dans un climat plutôt... C'était costume-cravate, quoi.
C'est bien l'un des reproches des grévistes, invités au milieu d'une cinquantaine de personnalités qui étaient là pour installer une mission nationale à moyen terme. Eux souhaitaient entamer de vraies négociations. Le plan pour les urgences cet été, par exemple, n'est pas suffisant, affirme Patrick Bourdillon de la CGT. Il travaille aussi aux urgences du Vaucluse.
Ces 15 millions, c'est un emplâtre sur une jambe de bois. Colmater d'urgence, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir avoir des effectifs cet été de façon pérenne. Oui, c'est indispensable. Surtout que lorsque la canicule va arriver, on sait qu'il y aura un afflux dans nos urgences. Mais il n'y a pas que ça. C'est avoir des services aussi qui puissent continuer à rester ouverts. Dans tous les hôpitaux de France, il y a des services, il y a des lits qui ferment l'été tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel pour pouvoir les laisser ouverts. Donc mettre du personnel dans les urgences, ça va solutionner la problématique de l'urgence. Ça ne solutionnera pas la problématique de l'hospitalisation derrière qui fait qu'on n'a pas assez de lits pour pouvoir hospitaliser des patients.
Voilà donc pour quelques réactions à chaud. Les syndicats se voient avec le collectif Interurgence lundi pour décider de la suite à donner au mouvement. Un mouvement qui pour l'instant s'étend. 105 services sont en grève ce vendredi.
Mediapart offre un rebondissement à l'affaire Benalla et l'enrichit du titre suivant, le En même temps de Benalla. Évincé de l'Elysée, après l'épisode des violences du 1er mai 2018, Alexandre Benalla a bénéficier, selon le site d'information, d'un important soutien financier de la part d'hommes d'affaires qui opèrent sur le continent africain, au moins 65 000 euros, dont 50 000 de la part de Vincent Miclet, intermédiaire de la France-Afrique. Il touchait par là même des indemnités de Pôle emploi, une prouesse qui soulève une fois encore de nombreuses questions, selon Fabrice Arfi, co-responsable des enquêtes à Mediapart.
Il a légalement le droit à des allocations chômage. Il a touché à peu près entre août 2018 et fin octobre 2018 entre 11 et 12 000 euros. Mais parallèlement, il touche de l'argent que manifestement il ne déclare pas. Puisque sur les 65 000 euros qu'il touche, il y a 50 000 euros du fameux intermédiaire Vincent Miclet dont il refuse de dire ce que recouvre la somme. Et puis il y a 15 000 euros d'un homme d'affaires franco-israélien qui s'appelle Philippe Ababou Solomon, qui est l'homme qui l'a amené dans toute sa tournée africaine à l'automne 2018. Et bien les 15 000 euros qu'il touche, quand M. Benalla est interrogé par sa banque, qui est une banque en ligne étrangère sur l'origine des fonds, il produit un CDI justifiant ses émoluments. Or, on ne peut pas avoir à la fois un CDI et toucher des indemnités chômage. Donc ça pose des questions. Et à chaque fois, la présidence de la République, à chaque fois que nous l'interrogeons, est comme tétanisée, n'a rien à dire, esquive. Et c'est incompréhensible. Et plus on cherche, plus on trouve. Et plus on trouve, moins l'Élysée n'a quelque chose à dire et moins on comprend.
Fabrice Arfi avec Rosalie Lafarge. C'est la plus longue canicule de ces 30 dernières années dans tout le nord de l'Inde. 34 jours à plus de 40 degrés, la mousson a une semaine de retard. Les besoins en eau sont donc énormes, les ressources sont surexploitées, les nappes phréatiques de plusieurs grandes villes sont quasiment épuisées. À New Delhi, c'est donc un rationnement difficile dans certains quartiers pauvres. Notre correspondant Sébastien Farcy a assisté à la distribution quotidienne de l'eau tant attendue.
Il est 15h30, il fait plus de 40 degrés et cela fait 2 heures qu'une cinquantaine de personnes attendent le camion-citerne. Celui-ci n'est pas encore arrêté que les enfants ont déjà grimpé sur le toit, ouvert la cuve et plongé plusieurs tuyaux pour sortir l'eau et remplir des dizaines de bidons. Ça fait tellement de bien de le voir arriver, dit Sanjay, un jeune homme. Sur le toit, là, c'est mon petit frère qui se démène. Nous devons récupérer au moins 100 litres pour ma famille, c'est le minimum. Nous sommes à Sanjay Place, un bidonville situé juste à côté du riche quartier des ambassades au sud de New Delhi. Ces 10 000 foyers pauvres dépendent en grande partie de cette livraison quotidienne. Avec la canicule, ce rationnement est cruel. Beaucoup n'obtiennent pas 50 litres d'eau par jour par personne, le minimum requis pour vivre selon l'OMS. Nous sommes 5 et nous vivons avec 150 litres d'eau par jour, confie Ramesh. Ce n'est pas assez, donc nous devons choisir si nous allons boire, laver nos vêtements ou nous doucher. Nous finissons par acheter des bouteilles d'eau pour boire, ce qui nous coûte cher. La municipalité vient d'installer une pompe pour chercher l'eau du sous-sol, mais cette solution n'est que temporaire. Le gouvernement affirme que la nappe phréatique de Delhi, surexploitée, pourrait être épuisée dans moins d'un an.
Quelques mots de la météo de demain samedi pour définitivement refermer ce journal. Temps orageux sur tout un quart sud-est, nuageux sur l'ensemble du pays. Cette édition a été préparée avec Caroline Benetto à la technique Jean-Frédéric.